Dans le psaume 50, verset 23, il y a un psaume une phrase que j'aime beaucoup qui me revient souvent. Celui qui offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et il prend le chemin où je ferai voir le salut que Dieu donne. Rappelez-vous que le salut, nous, évangéliques, on est un peu coincés sur salut, c'est ne pas aller en enfer. C'est vrai aussi. Mais ça, c'est comme si on réduisait un tout petit peu. Le salut, c'est nous sortir de ce qui n'est pas bien pour nous amener dans ce qui est bien. Hein. Lorsque j'étais enrhumé, je ne suis plus enrhumé, j'ai été sauvé de mon rhume. Lorsque j'étais seul et que je ne suis plus seul, je suis sauvé de la solitude. Hein. D'ailleurs, c'est le même mot, sauver, guérir, restaurer, tout ça, hein, c'est un seul mot. Donc je relis, celui qui offre la reconnaissance, celui-là me rend gloire et il prend le chemin où je lui ferai voir les solutions que Dieu propose, hein, qu'il offre. Et c'est une chose importante. Pour avoir de la reconnaissance, il faut savoir observer. J'ai donné un petit titre à ce que j'avais envie de partager ce matin, et c'était « Cueillir la reconnaissance en faisant, voyant l'œuvre de Dieu ». Et je trouve intéressant, enfin, ce n'est pas par hasard, hein, en français, le mot « reconnaissance », il a deux sens. Reconnaissance, dans le sens où les Suisses l'utilisent beaucoup. C'est malheureusement un mot que les Français utilisent peu. Hein. « Oh, je suis reconnaissant hein, ». Voilà. Mais aussi, c'est le verbe « reconnaître » qui veut dire « j'avais vu quelqu'un, je ne l'ai plus vu pendant longtemps, on s'est croisé et je l'ai reconnu hein. ». La reconnaissance. Reconnaître que quelque chose a été fait. Et les deux sont intimement liés. Hein. Prenez dans une maison, les enfants ne sont absolument pas conscients du travail que les parents font pour eux. Hein. Ils laissent le linge sale sur place dans la salle de bain, là où ils l'ont enlevé, et ils le retrouvent plié, propre, repassé, qui sent bon, dans l'armoire. Hein. Ils vident le frigo, ils laissent le paquet vide sur l'étagère, avec les papiers et les miettes autour, et la fois d'après, quand ils ouvrent le frigo ou le placard, il y en a de nouveau à consommer. Et puis tout se passe comme ça, et en tant qu'enfant, et j'en étais un, hein, c'est normal, une maison, il y a de la magie, mais on ne l'a pas vu. Quoi, hein. Voilà, et puis le sol, il est propre, hier il y avait des miettes, aujourd'hui il n'y en a plus, mais c'est bien, hein. On a une maison magique. Quoi. Et puis un jour on grandit, peut-être probablement quand on quitte la maison hein, souvent, et qu'on arrive dans notre propre appartement, et là la magie s'arrête. Le linge sale reste au pied de la douche, les miettes restent sur la table, le frigo devient vide, et puis les choses s'accumulent, et puis on se dit « waouh hein !» Là on retourne chez nous, et on reconnaît ce que nos parents, ou notre maman souvent dans la maison, mais ça pourrait être le père aussi bien sûr, a fait. Et de reconnaître cette chose-là, ça produit dans nos cœurs de la reconnaissance. Vous voyez le lien entre les deux hein. C'est pas par hasard. Quoi. Et c'est la même chose, nous sommes tous des enfants. Hein. Je me lève, et, jusqu'à ceux que j'ai très mal au dos, je ne savais pas qu'on pouvait avoir mal au dos. Et jusqu'à ceux que j'ai du mal à respirer, je ne savais pas que c'était incroyable de respirer. Et jusqu'à ce que. Et puis, c'est super, hein, y a de l'oxygène, il fait beau, je bouge, je mange, je vis, j'ai des amis, j'ai ci, j'ai ça, j'ai un toit. Mais la Bible nous dit, compte les bienfaits de Dieu. Hein. L'idée, ce n'est pas d'avoir un tableau Excel, de dire « Dieu m'a donné ça, ça coûte ça, je lui dois ça ». Ce n'est pas ça qui compte les bienfaits de Dieu. C'est apprendre à vivre en étant reconnaissant parce qu'on reconnaît la main de Dieu derrière les choses. Et c'est vraiment important parce que, encore plus dans les vies, dans notre mode de fonctionnement de nos pays dits « riches », enfin, ils le sont, mais pas des bonnes choses, souvent. On est tellement occupé qu'on n'a pas de temps pour la reconnaissance. Et ce n'est pas parce qu'on a pris l'habitude, parce que peut-être on a été éduqué comme ça, de dire « Oh, je suis reconnaissant, oh, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. » Non, non. Pour reconnaître les choses, il faut du temps. Et il faut savoir s'arrêter. Il faut pouvoir observer et il faut avoir l'angle et le recul nécessaire pour le voir. On peut marcher dans une forêt en pensant à ses factures à payer, au machin, au truc à faire, au travail, et puis on est sorti, on a marché 2 heures en forêt, on n'a rien vu. Ou on peut marcher dans la forêt, waouh, cette feuille, elle est belle, ouh, il y a une fraise là. Oh, ce petit plant, oh, il y a un oiseau, tiens, ça doit être un... Et on reconnaît les choses, et au fur et à mesure qu'on les reconnaît, parce que nous savons que c'est Dieu qui est à l'origine de la création et du monde dans lequel on dit, le fait de reconnaître ce qu'il a fait va faire arriver dans nos cœurs la reconnaissance, et celui qui offre en sacrifice la reconnaissance le glorifie. Et donc c'est important, c'est presque un métier à temps plein de reconnaître les choses. Je ne sais pas si ça va vous toucher, parce que tout le monde n'est pas sensible à la poésie, mais la première fois que j'ai lu ces vers, ils m'ont bouleversé, ça fait des années, et régulièrement je les relis. C'est un poète russe qui a écrit ceci. Et il dit « Nous sommes toujours déjà comme au bord de la grève, et je suis de ceux-là qui tirent les filets quand passe un banc d'immortalité. » Alors c'est un petit peu... Hein, voilà. Mais moi j'aimais cette image de cet homme au bord de la rive, qui est là avec son filet, et qui guette pour les jeter et les retirer quand passe un banc d'immortalité. Autrement dit, quand on capte l'action de Dieu qui est là sous nos yeux. Parce que très souvent, on est comme Jacob. Vous connaissez dans Genèse 28, lorsque Jacob s'enfuit, et puis voilà, il pense business, devenir, prendre la place de son frère, monter un truc, je dois me marier, je dois faire ci, je dois faire ça. Et puis il s'endort, il a un rêve, il se réveille, et il dit cette phrase, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Comme « Dieu est là !» Et on peut voir Dieu qui sourit, qui dit « Mon gars, depuis que t'es né, même avant, je suis là, je te suis, je suis autour de toi. » Mais tout d'un coup, il le voit et « Ah, Dieu est là !» Et moi, je ne le savais pas. Et je crois qu'un des buts de nos vies, c'est d'avoir les yeux ouverts sur ces moments d'immortalité ou de vie éternelle, c'est la même chose qui passe, pour pouvoir jeter nos filets et les cueillir. On ne les fabrique pas. On ne les maîtrise pas, on ne peut pas décider, ça commence là, ça finit là. Mais si on les reconnaît, alors la reconnaissance va venir dans nos cœurs. Et si la reconnaissance vient dans nos cœurs, il va se passer des choses. Et c'est intéressant parce que du coup, on devient les spectateurs de l'œuvre que Dieu fait au travers de nous. C'est une espèce d'oxymore où ça paraît impossible. Si c'est moi qui le fais, ce n'est pas lui. Si c'est lui qui le fait, ce n'est pas moi. Eh bien non, Dieu a trouvé une façon de faire qui est particulière. Je reconnais ce qu'il fait et j'entre dedans et je l'accompagne. Dans Jean 6, 29, Jésus répond à des gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» En gros, c'est quoi le job pour faire plaisir à Dieu ? Et vous connaissez ce texte. Jésus répondit, en vérité, j'ai beau les surligner, ces références, elles m'échappent. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est quoi faire l'œuvre de Dieu ? C'est que vous fassiez confiance en lui. Et cette phrase, elle introduit le développement où Jésus va dire, si vous ne mangez pas mon corps et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Il les fait passer de faire à se nourrir. Vous voyez ? Alors oui, c'est symbolique, on n'est pas anthropophage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est me faire confiance et vous nourrir de moi. Et vous allez faire. Je le dis souvent, et je l'ai encore dit dimanche dernier, mais c'est important. Tout le monde, dans l'histoire de Marthe et Marie, avec Marie qui est au pied de Jésus, qui écoute, et puis Marthe qui travaille, et puis elle est fâchée, et puis elle dit « Ah, pourquoi elle ne m'aide pas ?» Et Jésus dit « Ah, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Mais dans la vraie vie, tout le monde préfère Marie jusqu'à ce que le repas de midi arrive, et on est content que Marthe l'ait préparé. Mais en fait, ce que Jésus reproche à Marthe, ce n'est pas de travailler, c'est de faire des reproches à sa sœur à ce moment-là. Mais dans nos vies, on ne devrait pas choisir entre Marthe ou Marie. On doit être Marie pour être Marthe. Et parce qu'on est Marthe, on devient Marie. Et parce qu'on est Marie, on devient Marthe. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'on n'a pas à choisir entre la vie contemplative et l'action. Jésus dit, jusqu'à ce jour, mon père et moi, nous travaillons et je travaille, je suis à l'œuvre. Hein. Jésus était à l'œuvre. Alors, selon nos tempéraments, on est plus porté sur l'un ou sur l'autre. Il y a des gens, naturellement, c'est des contemplatifs. Hein. Ils peuvent rester des heures à regarder les choses, à observer, et puis c'est super, c'est leur nature. Puis il y a des actifs, aujourd'hui on dit des super actifs, mais même sans être super actifs, juste des gens, ils aiment faire. Hein. Et derrière, je parle là dans le domaine naturel, la raison c'est la même. Hein. On est tous vides à l'intérieur et il y a des gens qui se remplissent en observant, en admirant, en contemplant la beauté, les choses, comment ça fonctionne, et ça les remplit. Et puis il y a des gens, il faut qu'ils travaillent pour oublier le vide qu'il y a en eux, parce que quand ils sont occupés, ils n'y pensent pas. Hein. Donc il n'y a pas un qui est bien, un qui est mal, mais on a plus tendance à l'un ou à l'autre. Et en fait, dans nos vies, on va devoir apprendre à travailler les deux avec Christ. Ce n'est pas juste d'observer les choses qui va remplir ma vie, c'est d'observer l'œuvre de Dieu, la reconnaissance, dans les deux sens dont j'en ai parlé. Mais cette reconnaissance, si elle est réelle, elle va m'amener à faire des choses. Dans Éphésiens 2, encore, c'est que des versets très très connus que j'utilise ce matin, même si je les sors de leur contexte, mais je ne pense pas détourner leur sens. Paul explique aux croyants d'Éphèse et de la région, c'est par grâce que vous êtes sauvés, l'instrument c'est la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par ce que vous faites, par vos œuvres, afin que personne ne se vante de ce qu'il fait, mais en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez ? Et là, on a ces deux choses qui s'articulent. Hein. Observer l'œuvre de Dieu, la comprendre, voir ce qui se passe pour y participer et se joindre parce que c'est déjà préparé. Jésus, lorsqu'il était sur terre, et puis on dit « Ah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas ça ?» Puis c'est vrai qu'il était difficile à suivre. Je sais, heureusement qu'il n'avait pas un ou une assistante qui devait tenir un agenda et écrire une semaine à l'avance ce qu'il allait faire pour le communiquer aux médias. Quoi. Parce que la personne serait devenue folle au bout de deux jours. Quoi. On l'attend là, il va là-bas, il doit partir là-bas, il reste encore trois jours, il va, il vient. Mais c'était quoi qui guidait Jésus-Christ? Ce n'était pas non plus au pif comme ça, comme je le sens. Hein. Où le vent vient de là, on va aller là-bas, quoi. Non. Jésus nous explique très clairement. Il leur dit, en vérité, c'est dans Jean 5, hein, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ben, il pourrait, mais il a choisi de ne pas. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le mode de fonctionnement de Jésus lorsqu'il était sur terre, c'était... Où mon Père est-il en train d'agir maintenant? Et qu'est-ce qu'il fait? Comment il le fait? De quelle façon? Et c'est pour ça qu'il passait ses nuits tout seul sur la montagne ou ailleurs, où il prenait beaucoup de temps, même s'il était très actif. Hein, il y avait ce mélange chez Jésus d'une vie d'hyperactive dans un sens, mais tout d'un coup, pouf, il n'est plus là, on ne sait pas où il s'est tiré dans la forêt, dans la montagne, sur un bateau. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait ces deux alternances dans sa vie, entre ces moments de... contemplation de ce que son Père fait. Quand j'étais jeune chrétien, et comme disait Jésus passe une nuit en prière, et moi j'imaginais Jésus pendant toute une nuit à lire des listes. Et je te prie pour lui, et pour le voisin, et pour le chat, et pour le missionnaire, et pour ma santé. Oui, Jésus devait intercéder aussi. Hein. Mais essentiellement, ce n'était pas ça la prière de Jésus. Jésus passait du temps juste en communion avec son Père pour capter ses idées, son cœur, sa façon d'être, de faire. Et lorsqu'il était rempli de ça, il descendait et ça traduisait par des actions. Avant de choisir ses 12 disciples, ces 12 bonhommes dont je me moque souvent parce que je trouve qu'on se ressemble, qu'est-ce qu'il fait? Il passe une nuit en prière et puis il descend et il les choisit. Et vous voyez, c'est important pour nous de comprendre comment les choses fonctionnent. Sinon, on s'épuise. Heureusement, Dieu est bon, Dieu est grand. Et même quand on fait les choses à l'envers, il bénit des fois, enfin souvent, parce que sinon il ne se passerait pas grand-chose. Mais de comprendre comment Dieu fonctionne, c'est beaucoup mieux. Le fonctionnement naturel des humains, c'est quoi ? Il y a un truc à faire, ou plutôt qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bon, ça, ça serait bien, je réfléchis, je fais un plan, paf, on en discute, on fait un comité, tac, 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 tac. Et quand tout notre plan est fait, maintenant on va faire des réunions de prière pour dire à Dieu, bénis notre plan. Honnêtement, il le fait, souvent. Hein ? À moins que vraiment ce soit contre je ne sais pas quoi. Ça, je ne maîtrise pas. Pourquoi pas ? Mais c'est fatigant. Hein, je suis impressionné, là, j'étais encore dans une pastorale jeudi dernier. Tiens, ce pasteur, il a un burn-out. Ah, ce pasteur, il a un burn-out. Ah, ce chrétien, il a un burn-out. Ah, ce pasteur, il a un burn-out. Pourquoi ces gens sont en burn-out ? Alors, il peut avoir des problèmes de santé, je ne les critique pas. Hein. Mais une des raisons, c'est qu'on travaille à l'envers. Et travailler à l'envers, c'est fatigant. Hein. On fait des projets alors, en toute bonne volonté, hein, parce que voilà, on réunit les gens qui sont les plus compétents, et, là, les financiers, les machins, les trucs, les comités, là. Et après, on persuade Dieu de bénir nos plans. Et puis on est fatigué. Hein. Et Dieu nous dit, et si on faisait autrement ? Prenez le temps qu'il faut. Toute l'énergie que vous avez mis à vos comités, vos machins, à faire des plans, prenez-la à m'écouter, à observer, à reconnaître où je suis en train d'agir, ce que je suis en train de faire, comment je le fais. Et quand vous avez trouvé, mettez vos pieds, même si vous ne voyez pas tout, mais je vois que les 5 premiers pas, ça va mener où après ? T'inquiète, fais tes 5 pas, on verra après. Comme Abraham, hein ? Notre père à tous, le père des croyants, qui est parti sans savoir exactement jusqu'où le plan allait l'amener. Mais à un moment, il a compris, je dois quitter là et me mettre en route. Mais je ne pourrais pas avoir le business plan sur les 10 années à venir. Non, non. Mets-toi en route et pars de là. Ça, c'est une étape. Et puis, il l'a fait. Et pendant qu'il était en route, ben, des fois, il s'est trompé. Hein, mais voilà, Dieu lui a montré le chemin. Et ça, c'est la façon de faire de Dieu. Je pensais à une illustration que j'ai déjà utilisée, mais voilà, dans mon grand amour pour les arbres. Hein. Si le problème qu'il y a, c'est qu'il nous faut de l'ombre. Hein. Que font les hommes ? Ils font des parasols, ils font des pergolas, ils font des toitures. C'est cool, ça fait de l'ombre. Hein ? Sauf que ben, un parasol, il faut le fabriquer, les matériaux ne sont pas forcément recyclables, il faut les prendre quelque part, ça vieillit, le soleil l'abîme, puis quand il est foutu, ben, on ne peut pas faire grand-chose avec. Et puis ça fait que de l'ombre, et même pas de l'ombre de super qualité. Aller à l'ombre sous un arbre. On est capable d'aller sur la Lune, on peut faire des nanotechnologies, on peut faire tout ce que vous voulez. On n'a jamais fait mieux qu'un arbre pour l'ombre. Hein ? L'air circule, l'ombre... Sauf qu'un arbre, ce n'est pas du travail. Ah, c'est long ouais, à pousser, ça dépend lesquels. Hein ? Mais il faut le planter. Mais un arbre, dedans, il y a la vie. Il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des oiseaux, il y a des écureuils. L'arbre, il fait des feuilles, les feuilles nourrissent le sol. L'arbre, il capte le carbone, et il fait de l'oxygène avec, ses racines font que, machin, truc. On peut y accrocher une balançoire, il va faire des fleurs, il va faire des fruits. Il fait tout ça, il fait de l'ombre, et ce n'est pas du travail. Mais au début, il faut le planter, il faut le cultiver. Il faut l'entretenir. Il faut prendre soin de la vie. Ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire. Mais est-ce que je veux passer, monter une usine de parasols ou est-ce que je veux planter des arbres ? Et dans notre façon de collaborer, de partager, d'œuvrer avec Dieu, moi je crois qu'on devrait se poser la question souvent. Et le premier point, c'est est-ce que je suis d'accord de renoncer à ma façon naturelle de faire ? Et je ne vais pas juste me lancer dans les projets, mais... Je veux faire que ce que je te vois faire et le faire de la façon dont tu le fais. Et puis là, on recommence à lire les évangiles et à lire les écritures. Ah ouais, c'est vrai que ben, la façon dont on fait, c'est pas trop comme ça. Ou c'est bien. Et puis on va avancer là-dedans et on va découvrir ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous y marchions dedans. Vous savez que ça fait un petit moment que je n'en ai plus fait, d'ailleurs c'est rare, mais ça fait au moins 2 ans, hein, 1 an, que je n'ai plus fait de chasse au trésor. Normalement, depuis que j'ai pris la première à 14 ans, j'en ai toujours fait au moins une par an, mais souvent 3 ou 4. Alors au-delà du fait que ça me passionne, hein, mais j'aime ça parce que c'est une des plus belles images de ma vie avec Dieu. Et il met le signe là, parce que lui, il connaît le parcours, hein, et moi je suis, puis là il y a un message, le message il me dit de faire ça, je fais ça, et je trouve un truc, et je ne sais pas à quoi ça sert, mais le message me dit garde-le. Alors je le mets dans ma poche, et puis quand quelques kilomètres plus loin, je trouve un autre, ah, et maintenant il faut faire ça, ah, puis j'ai besoin de ceux qui étaient là, et puis... Et tout a un sens comme ça. Sauf que je découvre au fur et à mesure. Mais il y a quelqu'un qui a tracé la piste. Alors, je ne dis pas ça dans le sens où il y a un seul chemin, et puis si on le rate, on se perd. Ce n'est pas ça que je veux dire. Hein. On a de l'autonomie avec Dieu, on fait des choix, etc. Mais dans l'idée que, d'une chose à l'autre, comme ça, il conduit nos vies. Et puis, ce qu'on vit ici, bon, on en aura besoin là, et ce qu'on vit là, on en aura besoin là, et ce qu'on vit là, on en aura besoin là, et jusqu'au bout, quoi. Hein. Et c'est quelque chose qui est magnifique parce que quand on vit comme ça, alors on peut être fatigué des fois, oui, ben on va dormir, on se lève, on n'est plus fatigué. On peut être découragé des fois, on peut être triste, on peut avoir peur. Hein. Mais on n'est pas écrasé totalement. Paul, il dit, hein, on est persécuté, mais pas là, là, là mais pas là. Oui, les épreuves, elles y sont et elles ne sont pas faciles, et les incompréhensions et les questions sans réponse. Mais ce n'est pas pareil que quand on travaille à l'envers, où là on est carrément... Et puis surtout, ça peut produire de l'amertume quand on travaille à l'envers. Hein. Avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, et puis j'ai pas eu, et puis j'ai travaillé, et puis c'est pas, on m'a pas... Ouais. Non. L'arbre, c'est un arbre, il y a une tempête, il y a des risques, mais il ne dit pas « Oh, j'ai travaillé, non, je vis !» Et la vie, ce n'est pas facile. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et je. Voilà. De mettre ce cycle. Alors, c'est important pour chacun d'entre nous de réfléchir, parce que selon. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a des gens qui sont plus contemplatifs, d'autres qui sont plus actifs. Mais selon les saisons de nos vies, on est plus l'un ou l'autre aussi. Hein, ça peut énormément changer. Moi, quand je regarde derrière moi, je vois des périodes où j'étais dans une activité de fou furieux. Et puis, des périodes où j'étais contemplatif, mais à la Corse, quoi. Hein. Je contemplais tout, mais sauf le travail à faire, quoi. Hein. Voilà, hein. Je parle spirituellement. Et puis voilà, ben, nos vies sont comme ça. Mais on doit comprendre que l'un nourrit l'autre. Parce qu'une vie à observer ce que Dieu fait, à méditer, à contempler, si elle ne se traduit pas en action, ça va devenir sec. Après, ça devient juste cérébral, et puis oui, comprendre encore ce petit détail dans le machin, et puis je suis là enfermé dans moi. Non, Jésus dit, jusqu'à ce jour, mon Père travaille et moi aussi. Quoi. Il peut y avoir des appels spéciaux, hein. Je connais quelques personnes, c'est rare, hein, qui ont eu cet appel de partir prier, et puis ils sont retirés, ils vivent bien. Super, hein, il y en a pas beaucoup, mais ça peut exister. Mais normalement, pour le commun des mortels, on doit avoir ces deux choses dans nos vies, hein, comme deux jambes, deux poumons, ou ce qu'on veut, qui, je me nourris, j'observe, je vois ce que Dieu fait, et quand j'ai compris, alors je me mets en route. Et puis je marche dans ces actions, ces œuvres concrètes que Dieu a préparées d'avance. D'ailleurs, nos traductions, pour que nous les pratiquions, hein, mais littéralement, regardez un derby, pour que nous y marchions dedans. Hein. Elles existent et on y marche dedans. Et c'est magnifique parce que, ben, je pense que vous le savez tous, on a tous vécu ça, quand on est dans ces moments où on est en train de faire des choses, mais qu'on sait que c'est les choses que Dieu a préparées, et puis qu'on les voit se mettre en place, c'est juste magnifique. Et là, qu'est-ce qui se passe? La reconnaissance, la vraie, vient de mon cœur et glorifie Dieu. Et vous rappelez le verset de départ, « Celui qui offre sa reconnaissance me rend gloire ». Et il prend les chemins où je lui montrerai les solutions que Dieu propose. Et là, on a ce cycle de vie de nouveau qui nous est présenté. Hein. Et c'est important régulièrement de faire une pause. Ouf, je suis où? Est-ce qu'il y a ces deux pieds dans ma vie? Est-ce qu'il n'y en a qu'un? Est-ce que je suis déséquilibré? Et puis, hop, je vais prendre le temps de remettre les choses en place sans culpabiliser jamais. Hein. Et puis, ben, si je ne sais pas, ben, je peux en parler avec quelqu'un, je peux prier avec quelqu'un, mais surtout demander à Dieu. Et puis, il va nous donner les réponses et on va pouvoir y entrer dedans. Et je termine avec ce verset qui... C'est un verset qui m'accompagne comme mon couteau de poche dans ma poche que j'ai toujours. Hein. Ésaïe 26, 12. Éternel, tu nous donnes la paix, hein, tu nous établis dans la paix, littéralement, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Hein, c'est encore un bel oxymore. Pas possible, c'est nous, c'est tout, on ne peut pas être les deux. Mais si. Seigneur, tu nous établis dans la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais pour nous. Mais c'est nous qui le faisons, et c'est lui qui le fait pour nous. Et c'est assez incroyable, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on vit comme ça, encore une fois, oui, on peut être fatigué à la fin d'une journée, des fois plus trop voir où c'est, mais on ne va pas tomber dans l'amertume. Parce que c'est, voilà, on est dans la paix. Hein. Puis les choses se passent plus lentement que prévu, ben tant pis. Pas comme j'avais prévu, ben oui, mais ce n'est pas mon plan à moi, tant pis. Et puis, voilà. Mais du coup, c'est une marche dans l'intranquillité permanente. Hein. Il y a ce très beau livre de Marion Muller-Collard, L'intranquillité heureuse, à méditer. Mais c'est ça. Et c'est ce que vivaient les gens qui vivaient avec Jésus quand il était sur terre. Hein. On part là, hop, ça part là-bas, hop, là on s'arrête, il faudrait vite partir, non, on reste encore 3 jours ici, hop, on traverse la mer, le lac, on revient, on va, on ne sait pas trop. Ouais. Mais être un chrétien, c'est être un disciple du Christ, et un disciple du Christ, c'est celui qui marche avec lui. Et pourquoi il aurait changé? Parce qu'il n'est plus là physiquement, il est le même. Et on doit apprendre nous aussi à marcher comme lui. Seigneur, tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ben, Seigneur, on te demande que derrière ces mots, tu nous aides à comprendre comment tu agis, Seigneur. Comment ces cycles de vie peuvent venir prendre place dans nos vies à nous pour que cette vie éternelle que tu as déposée en nous puisse pousser, porter des fruits, assainir l'atmosphère et puis faire tout ce qu'elle a à faire, donner de l'ombre et se reproduire. Et on a besoin de toi, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire. Mais on veut faire avec toi, en marchant dans ce que tu as préparé pour nous, Seigneur Dieu. Et on veut reconnaître ta main, reconnaître ton action, te voir et jeter nos filets quand ton action passe à côté de nous, pour nous en nourrir, afin qu'on puisse continuer jusqu'au bout dans ce bon combat que tu nous as proposé, de rester liés à toi par la confiance. Merci Seigneur Dieu.